RCF.
C'est un constat fait régulièrement, les assemblées dominicales sont grisonnantes. C'est une réalité certes, mais qui pourrait masquer la grande recherche spirituelle de nos contemporains les plus jeunes et la dynamique des aumôneries catholiques ou des patronages ou également d'ailleurs du mouvement du scoutisme et qui rencontre un grand engouement. Annoncer l'évangile aux jeunes et leur transmettre le goût de l'Église, un dossier qu'on ouvre aujourd'hui sur RCF en Normandie. Alors, avec nos trois invités, Henri et Corentine Huvet, bonjour.
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 Vous avez initié un tour de France des patronages. Vous faites plusieurs haltes en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce projet ?
Voilà, nous sommes sur les routes de France pendant un an en camping-car pour rencontrer les paroisses et leur donner envie de se lancer dans la belle aventure des patronages pour leurs jeunes.
Voilà, le patronage, ça fleure bon le 19e siècle, mais on va voir avec vous et avec notre troisième invité d'ailleurs que ça a récemment repris de belles couleurs. Père Jean-Marie Petitclerc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas normand ou si vous êtes...
Si, je suis né à quelques kilomètres d'ici, à Thiberville.
Alors, vous êtes normand, mais vous n'êtes plus habitant de Normandie. On a profité de votre passage à Lisieux pour vous invitez à ce plateau, éducateur salésien, vous avez fondé le Val d'Oco et puis vous avez écrit entre autres, parmi de nombreux ouvrages, les grandes étapes de la vie spirituelle de nos enfants, c'est paru chez MAM récemment. Et puis avec nous, la locale de l'étape, Anne-Claire Val, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes animatrice à la pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux et Lisieux.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui propose énormément de propositions. Et qui regroupe, il y a combien de jeunes qui passent par la pastorale ?
Ça dépend un peu des événements, mais par exemple, au dernier Pélé Jeunes à Lourdes, il y avait environ 200 jeunes qui participaient.
Voilà, 200 jeunes, ça montre qu'il se passe des choses. Le jeune s'intéresse-t-il aujourd'hui à Dieu dans le monde qu'on connaît ? Anne, vous avez le micro, en tout cas les jeunes que vous connaissez à la pastorale.
Oui, complètement. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui toquent à la porte sans trop savoir pourquoi ils sont là, mais ils ont une grande curiosité, je pense, et une grosse recherche de sens aussi. Et on a beaucoup de jeunes de tout horizon, de toute situation, qui viennent à notre rencontre parce qu'ils se posent plein de questions et ils savent pas trop par où commencer, par où aller. Et donc voilà, nous, c'est un peu la première porte ouverte qu'on peut leur donner aussi dans leur recherche de la foi.
C'est beaucoup des jeunes, j'imagine, de familles chrétiennes, pratiquantes, mais ça déborde aussi.
Oui, il y a un peu des deux. Enfin, oui, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a à la fois des familles très ancrées dans la foi, qui pratiquent beaucoup la foi à la maison et à l'église, et du coup qui portent aussi des nouveaux jeunes qui démarquent complètement, qui connaissent pas beaucoup de choses, et du coup voilà, il y a un beau mélange qui se fait, et c'est très porteur dans les groupes et les rencontres qu'on propose.
Père Jean-Marie Petitclerc, la question est un peu abrupte, mais voilà, les jeunes s'intéressent-ils à Dieu ou en tout cas recherchent-ils Dieu ?
Oui, moi je crois que si on assiste à un affaissement de la pratique religieuse dans notre Europe sécularisée, le questionnement spirituel reste vif chez l'ensemble des jeunes. Tout jeune fait l'expérience d'une part qu'il est complètement singulier, unique au monde, on est 7 milliards sur la planète, il n'y en a pas un qui lui ressemble. Et puis d'autre part, au bout du bout, c'est la mort. L'animal, il sait pas qu'il va mourir, donc il peut vivre à fond à H-2. Lui, il sait qu'il va mourir. Et la question qui se pose, c'est celle du sens. Est-ce que ça fait sens ? Et ayons bien conscience que bon nombre de conduites addictives par rapport à des produits toxiques, c'est une fuite par rapport à cette question du sens. Donc essayer d'étayer chez le jeune une réponse à cette question du sens de sa vie, pour moi, c'est ça le fondement, effectivement, du questionnement spirituel.
Henri et Corentine Huvet, sur cette question de la recherche des jeunes à travers les patronages que vous avez pu visiter ou les paroisses que vous avez pu visiter, comment se pose cette question ?
Je dirais que c'était à l'origine du fait qu'on soit parti en mission. C'était pour la jeunesse de notre pays. On a beaucoup fait des missions de rue. Donc avec Annuncio, on partait dans la rue deux par deux et on parlait de Dieu aux gens qu'on rencontrait. Et il y avait toujours cette tranche de la population, les 15-20 ans, qui ne disait jamais non, et qui avait des grandes questions sur le sens de la vie, la mort, l'amour. Et il nous disait qu'il ne trouvait pas de personne avec qui échanger, avec qui parler. Et c'est vrai que le patronage est un lieu assez unique où le jeune peut justement être avec ses amis, jouer, s'amuser, en même temps être avec un prêtre, une religieuse, un religieux, et poser des questions qui ne s'étaient jamais posées, et même voilà, faire naître ou alors faire grandir quelque chose en lui au niveau spirituel.
Corentine ?
Ce qui m'émerveille vraiment dans ce Tour de France, c'est de voir ces jeunes qui justement nous partagent à quel point ce lieu de patronage leur a permis de s'épanouir et justement d'avoir ce lieu où leurs questions ont obtenu des réponses. Les jeunes ont soif, vraiment. On soif de grand, on soif de beau, on soif de réponses, on soif de fraternité et de spiritualité, on soif de comprendre, on soif d'amour, on soif de tout ça. Et c'est dans tous ces lieux, dans ce lieu de patronage qu'ils peuvent découvrir et grandir.
Alors j'évoquais tout à l'heure avec Malice le 19e siècle, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la manière de parler de Dieu à nos jeunes ? Voilà, j'imagine que le message, il est plus délivré de la même manière. Alors, Jean-Marie Petitclerc, vous avez le recul des années et la sagesse.
C'est ce qui est commun entre
et
la période...
Et puis vous vous référez aussi à Jean Don Bosco.
Ce qui est commun à la période de Don Bosco et à la nôtre, c'est qu'on connaît d'intenses mutations sur le plan sociétal. Au temps de Don Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle. Et voici que nous passons donc de cette société industrielle marquée par cette révolution du numérique. Et on n'en est qu'au début. Ayons bien conscience que cette révolution du numérique, et les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans cette culture, c'est pas qu'une révolution d'ordre technologique, où il s'agirait simplement d'apprendre à utiliser ces nouvelles technologies d'information et de communication. Il s'agit à mes yeux d'une véritable révolution culturelle, puisqu'on assiste chez les jeunes à une évolution du rapport au temps, le tout de suite, qui caractérise le numérique, une évolution du rapport à l'espace, tout jeune est en capacité de dialoguer avec tout autre jeune aux quatre coins de la planète, et puis une évolution des rapports sociaux, avec cette grande horizontalité des réseaux sociaux. Ce qui caractérise les réseaux sociaux, c'est qu'un like vaut un like, le like de l'expert, qui a travaillé 3 ans sur un sujet, a la même valeur que le like du piéton interrogé sur un micro-trottoir, et puis se dégagera une espèce de majorité. Donc nous vivons cette période de mutation, ayant bien conscience que chaque fois que la société traverse une période de mutation, je crois qu'il est à la fois plus difficile d'être jeune. On parle beaucoup de jeunes difficiles, moi je pense qu'il est plus difficile de vivre son enfance, sa jeunesse dans une société en mutation, parce qu'il est plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous au temps de Don Bosco que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon? Et combien aujourd'hui nos ados ont du mal à se projeter dans l'avenir lorsque l'on dit que on connaît aujourd'hui que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050, qu'ils assistent à l'effondrement de pans entiers de l'économie traditionnelle, et que les nouveaux métiers liés à ce qu'on appelle l'économie tardent à se structurer. Et puis il est aussi plus difficile d'éduquer, parce qu'il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs. Je crois effectivement rencontrer beaucoup de parents, de grands-parents qui voudraient transmettre à leur enfant ce qui a fait un peu l'ossature de leur vie, et qui ne sont plus portés par un environnement social qui irait dans le même sens. Et donc, dans ce contexte, Don Bosco était porteur d'une intuition, et qui me paraît tout à fait pertinente, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, alors en son temps c'était les institutions liées à la monarchie, aujourd'hui c'est les grandes institutions républicaines, et c'est aussi parfois un peu l'Église, la capacité à transmettre allait beaucoup moins être liée à la qualité organisationnelle de l'institution qu'à la qualité de la relation que l'adulte est en capacité de nouer avec le jeune. C'est Don Bosco, et celui qui devinait déjà, et je crois que les faits lui ont donné raison, que l'exercice d'une fonction d'autorité de l'adulte qui l'exerce, les jeunes sont de moins en moins impressionnés par le statut de l'adulte qu'ils ont en face d'eux. On se souvient de l'apostrophe de notre président de la République par un collégien de 3e, alors Manu, comment ça va, s'adressant au président de la République comme il serait adressé au voisin du quartier, mais va beaucoup plus être lié à la qualité de cette relation. Et donc Jean Bosco nous lègue une pédagogie fondée sur la qualité de cette relation le jeune, et Don Bosco est aussi ce pédagogue qui, après la grande rationalisation du siècle des Lumières, a réhabilité un peu l'affectif en disant que, de toute façon, il y a de l'affectif, qu'on le veuille ou non, c'est une composante, et que mieux vaut être capable de le reconnaître pour être capable de le gérer correctement au service de l'éducation, plutôt que vouloir le nier. Donc je crois que cette intuition, elle reste. Alors après, effectivement, les représentations vont vont changer. Hein. Je disais dans mon atelier, en regardant les gens, je disais, je vous regarde tous, aucun n'a la même représentation de Jésus ressuscité dans sa tête. Et que l'important, ça va être de transmettre la foi en la résurrection, mais de pas transmettre notre représentation de la résurrection. C'est pour ça que je me bats un peu, ouais, des fois, contre tous ces auteurs de bande dessinée où on représente Jésus ressuscité, c'est le même habillé en blanc. Moi, je dois vous dire, mon meilleur copain meurt. 3 jours après, je vois le même habillé en blanc, je le reconnais tout de suite. Or, c'est pas le cas. Donc, ça peut pas être ça. On sait pas ce que c'est. Paul nous indique simplement l'image de la graine qui devient une plante. Hein. Des fois, je dis aux gamins, imaginez 3 patates qui discutent entre elles de qu'est-ce qui se passe après la mort. Alors, une qui va dire on va devenir transparente, l'autre on va devenir éternelle, l'autre on va être lumineuse. Aucune ne peut imaginer la plante. Donc, on peut pas s'imaginer. Ayons bien conscience que la représentation qu'aujourd'hui on se fait de l'enfer et du paradis n'a rien à voir avec la représentation que les chrétiens se faisaient de l'enfer et du paradis au XIIIe siècle. Donc, ce qui me paraît important en période de mutation, c'est bien sûr de transmettre la parole à partir de laquelle les jeunes sont capables d'élaborer leur propre représentation adaptée à ce nouveau monde culturel dans lequel ils grandissent et de ne pas forcément transmettre nos représentations.
Chrétien en Normandie sur RCF, Guillaume Desanges.
Anne-Claire Valvoet, qui est animatrice à la pastorale des jeunes. Je ne vais pas vous demander de reprendre ce qu'a dit le père Merci. Jean-Marie Politiquet, mais sur quand même certains aspects, notamment sur la question du numérique et de tout ce que ça bouleverse dans le rapport que peut avoir un éducateur aux jeunes. Et puis également la question de l'importance de la relation personnelle et peut-être de derrière aussi de l'exemplarité de l'éducateur vis-à-vis du jeune. C'est quelque chose que vous ressentez aussi dans la relation que vous pouvez avoir?
Oui, ouais, complètement. C'est vrai qu'une chose avec le numérique que moi j'observe beaucoup, c'est que du coup les jeunes ont accès à beaucoup de choses tout le temps et dans une dimension assez impressionnante. Et du coup, à la pastorale des jeunes, vraiment, on essaie de beaucoup soigner comment on accueille les jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils aient aussi accès dans la réalité à des choses belles et grandes et vraies. Et qu'il soit incarné en fait dans le présent et maintenant. Et ça, c'est un support assez important et de qualité pour nous. Et qui permet du coup aussi à chaque animateur d'une certaine rencontre avec les jeunes. On soigne beaucoup l'accueil et comment les animateurs auront toutes les clés possibles pour vraiment rencontrer les jeunes, avoir le temps de la rencontre et ensuite de pouvoir aussi les accompagner, les aider à faire le pas de plus qu'il faut aussi dans leur chemin de foi et dans leur questionnement et leur recherche.
Henri et Corentine, l'un des apports du patronage aussi, c'est cette question aussi du retour à la réalité. Enfin, les jeunes jouent sur des choses extrêmement concrètes. J'imagine que dans les patronages que vous avez visités, la place des écrans est relativement minime, par exemple.
Oui, effectivement. Ce qui est beau, c'est que dans le patronage, c'est souvent des grands jeux en extérieur ou des ateliers manuels. Et bon, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'était à la fin d'une journée type qu'on avait organisée au sein d'une paroisse. À la fin de la journée, il y avait le retour des enfants et un des enfants qui nous dit « Waouh, j'ai découvert ce que c'était que de jouer dans un jardin, que de jouer dehors. » Et du coup, ça donne envie de continuer à sortir et à jouer dehors parce que ça fait du bien. Et ça, je crois que c'est un grand cadeau que ça a pu être pour lui, que de découvrir qu'il y avait autre chose que les écrans pour grandir, s'épanouir.
Ça paraît un outil pertinent, le patronage, où tout ce qui est mis, j'ai l'impression que les pastorales des jeunes aussi s'inspirent beaucoup hein, de ce qu'on peut proposer dans les patronages pour transmettre la foi, parce qu'il y a du coup cette question de la relation aussi, c'est des lieux de profondes relations qui tranchent avec le monde numérique que vous évoquiez, Jean-Marie Petitclerc. Il y a la question effectivement de l'incarnation. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Voilà, comment vous voyez ce lien entre cette pédagogie qui est développée, qui pourrait ne rien avoir avec la foi ou la religion, et puis cet aspect du patronage, en tout cas du patronage chrétien, qui est aussi où l'enjeu de la transmission de la foi est important. Henri ?
Dans un patronage, la prière, on passe du monde profane au monde spirituel sans forcément de grands temps de séparation. Et c'est ça la force justement d'un patronage, c'est ici on joue, ici on prie. Je crois que c'est le père Jean-Marie Petitclerc qui disait que le cœur d'un patronage, c'est la cour de récréation, c'est là où tout se joue, l'enfant joue avec d'autres, découvre ses forces, ses talents. Et puis en même temps, voilà, y a le prêtre qui joue au foot avec eux, puis du coup le prêtre qui fait un topo, ça devient du coup un ami, un confident, un père. Et c'est vrai que c'est ça la force de décloisonner le jeu et la prière.
Père Jean-Marie Petitclerc, sur cette pertinence de la formule du patronage pour transmettre la foi.
L'outil qui me paraît fort intéressant, c'est celui de la relecture. Moi, je vois dans les grands jeux qu'on anime, il y a tout ce temps de grands jeux qui se déroule, et puis après, il va y avoir le temps de la relecture. Pourquoi on est heureux? C'est quoi la vérité des relations? Est-ce que c'est une relation de fraternité? C'est par la relecture qui, à mes yeux, est un formidable outil catéchèse. Permettre à l'enfant, à l'adolescent, de relire. C'est un sujet, on parle de comment transmettre la foi. Ayons bien conscience que Jésus a deux manières de transmettre la foi, selon qu'il s'adresse à la foule ou selon qu'il s'adresse aux disciples. Lorsqu'il s'adresse à la foule, il raconte des histoires. Il raconte des histoires qui sont articulées avec l'observation quotidienne des gens. Un semeur, mais les gens, ils voyaient ce que c'était qu'un semeur. Un chasseur de trésors, mais les gens, ils voyaient ce qu'était un chasseur de trésors. Un pêcheur, un papa en difficulté avec ses deux ados. Bon. Il raconte l'histoire. Une histoire qui pose question. Et puis, quand il s'adresse à ses disciples, alors là, il répond à leurs questionnements. Et je suis étonné, d'ailleurs, dans tout le dialogue individuel, il n'y a que 4 dialogues où Jésus prend l'initiative. C'est de quoi discuter en chemin, donne-moi boire, et pour vous qui suivez. En tous les sens, il ne fait que répondre aux questions, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, voilà, il y a un scénario qui se déroule, hein, une histoire qui peut faire sens. Moi, je veux dire que quand on monte un grand jeu, au niveau des Salésiens, on prend toujours des histoires qui font sens. Et puis après, comprennent qui pourra, ceux qui iront plus loin. Parce que ce qui est effectivement aujourd'hui et ce qui change, c'est que le semeur, ça parle plus, un citadin. Il n'en voit pas. Le chasseur de trésors, il n'en voit pas. Le pêcheur, c'est des navires usines. Bon. Donc, il s'agit de raconter des histoires, d'où c'est un peu la base de nos jeux, de raconter des histoires, centrer un peu sur ce qu'est leur vie, et puis ce qu'on va leur dire, je reviens du Campo Bosco là, notre grand rassemblement, c'est de leur dire, ben voilà, et là ça va être une histoire, le jeu, vous allez être acteur, c'est pas vous allez être spectateur devant votre écran, hein, vraiment vous allez la vivre, hein, et puis donc les épreuves qui se déroulent après sont les jeux classiques, hein, où le héros va trouver l'objet de la quête, alors les histoires changent au fur et à mesure des... Hein. Mais après, l'important c'est, en relisant, qu'on va effectivement essayer d'éveiller la question du sens, hein, et puis de permettre ensuite à des jeunes d'aller plus loin dans le questionnement. Hein. Mais je pense que c'est comme ça que Jésus s'y prenait. Hein. Et quand j'interviens à l'école catholique, il y a toujours du niveau. Soit je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à tous les élèves. Donc il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les chrétiens, et je raconte des histoires. Ça, et puis effectivement à l'aumônerie, là, c'est autre chose, c'est les jeunes qui ont envie de se questionner, et comme vous le disiez, on va essayer de répondre aux questions qui se posent, d'imposer notre manière de voir ou de répondre à cette question, et de voir comment effectivement l'évangile apporte des réponses à leurs propres questions. Le rapport à l'évangile n'a de sens que s'il répond à la question. C'est chaque fois que je fais une homélie, je me dis toujours, bon, les gens ne retiendront que peut-être la phrase ou les deux phrases où j'aurais répondu à une question qui se pose. Tout le reste, ils l'oublieront. Hein. Tout le reste, ils l'oublieront. C'est toujours lorsque on accroche à un questionnement de l'autre que effectivement il va accrocher. Sinon, c'est de l'enseignement ou c'est tout ça. On écoute et puis on oublie. Enfin,
est-ce que le fait d'être un peu à front renversé dans les propositions que vous faites, que ce soit dans les comptes jeunes portés par les pastorales des jeunes ou dans les patronages, je pense notamment, ou le scoutisme, voilà, il y a une certaine forme de radicalité dans le message de l'évangile, hein, sur l'amour, sur voilà, qui est très très fort et qui tranche certainement aussi avec le discours ambiant qui est très très relativiste. Il y a cette question de l'incarnation aussi, de revenir au réel. Quand on propose des soirées pizza en aumônerie ou des grands jeux ou d'aller dormir à la belle étoile quand on est scout, ça tranche avec un chat sur Insta ou je ne sais quoi. Le côté proposition à front renversé, ça aide aussi à attirer des jeunes qui se posent des questions. Qui veut répondre ? Anne ?
Moi, je pense qu'ils en ont beaucoup besoin et qu'ils ont soif aussi fin, de cette rencontre dans la réalité et de se détacher un peu de ce qu'ils ont au quotidien tout le temps à travers les écrans ou dans ce qui, enfin voilà, de ce qui les rejoint le plus facilement possible. Et que quand il y a une nouvelle proposition ou quelque chose qui va leur permettre de sortir un peu de soi et de ce qu'ils connaissent toujours, et en fait ils sont assez curieux et attirés. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi, voilà, enfin de susciter la rencontre et leur curiosité par après derrière des questionnements plus profonds, mais voilà, d'engager une forme différente en fait de ce qu'ils connaissent et ouais, enfin ça les attire beaucoup et je trouve qu'ils en ont beaucoup besoin aussi.
Corentine et Henri. Sur le côté un peu décalé de la proposition, alors en l'occurrence, vous travaillez beaucoup sur les patronages, mais c'est alors au 21e siècle, c'est quand même, ça reste quand même un peu décalé comme proposition.
Moi, ce que je peux aussi partager, c'est que souvent, nos jeunes, entre l'école et la maison, et ils n'ont plus assez ce tiers-lieu, comme on peut dire, entre les deux, où ils peuvent continuer à évoluer, à vivre des choses. Et souvent chez eux, bah oui, ils sont seuls. À l'école, bah c'est l'école. Alors que là, le patronage, c'est cet autre lieu, ce tiers lieu où ils peuvent continuer à vivre des activités diverses, à continuer à rencontrer d'autres jeunes, continuer à se poser des questions, à lire, à jouer, à grandir, à prendre un goûter avec les autres. Mais c'est cet espace entre les deux qui est riche, qui est très riche et qui est proposé à travers le patronage.
RCF, Guillaume Desanges.
Il y a la radicalité, il y a le monde ultra connecté qui est aussi un grand point de nos sociétés contemporaines. Les jeunes qui répondent à vos propositions, qui sont des propositions explicitement chrétiennes, c'est voilà, c'est pas caché comme. Alors j'imagine qu'il y a un certain nombre, il faut pas se leurrer, qui les parents, c'est vivement conseillé par les parents. Qu'est-ce qui les motive à venir vous voir? Le père Petitclerc a commencé à parler des questions fondamentales de la mort, par exemple, qui sont des questions qui sont mises sous le boisseau ou évacuées aujourd'hui. Dans ça, c'est des questions qui sont posées par les jeunes que vous rencontrez, avec lesquels vous vivez, Henri, dans les patronages que vous visitez ou.
Mais ce qui est très beau, c'est que justement, quand on entend des jeunes qui sont dans les patronages, et qu'est-ce qui les ont poussés? Bah effectivement, c'est le fait que leurs parents travaillent et qu'ils doivent être confiés à un organisme. C'est vrai qu'il y a le centre aéré, on peut penser au centre aéré, mais le patronage aussi. Et on rencontre pas mal de jeunes qui disent « J'allais au centre aéré en traînant des pieds, mais je vais au patronage en courant. » Parce que, voilà, ils perçoivent qu'il y a une autre dimension, autre chose qui lui est présentée. C'est vrai que même si à la base il connaît pas, il y va, il est avec ses amis, il joue, il est content, et bah derrière il découvre quelque chose de plus grand qu'il n'aurait pas imaginé, et derrière c'est lui qui y va tout seul et puis après qui ramène ses amis.
Comment on parle de Dieu aux jeunes? Alors les jeunes aujourd'hui c'est très large, hein, ça va être 15 à 30 ans grosso modo. Donc le père Jean-Marie Petitclerc parlait des images et la manière qu'avait Jésus de parler aux gens et qu'il adaptait son discours entre guillemets, enfin qu'il n'utilisait pas les mêmes formes. Comment vous faites? Vous vous adaptez? Anne Clerval.
On adapte parce qu'il y en a qui sont vraiment éloignés et donc utiliser le vocabulaire très catho du dimanche matin à l'église, ça les rejoint pas et ils comprennent pas. Donc je pense que oui, une clé pour nous c'est quand même la simplicité dans les échanges, de pouvoir rendre concret en fait la foi et où est-ce qu'elle s'incarne, et après de l'ancrer dans leur quotidien aussi, de partir d'une parabole, d'un texte lu à la messe, et après de dire mais en fait comment ça résonne en toi, qu'est-ce qui peut te rejoindre, et comme ça petit à petit après de faire des liens entre la parole de Dieu et la vie des jeunes, et qui s'y retrouvent aussi dedans. On est un peu des passeurs à ce niveau-là, je pense, entre les jeunes et la foi.
Corentine.
Moi ce qui m'a marqué dans l'atelier de tout à l'heure auquel j'ai assisté de Jean-Marie Petitclerc, c'est que et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que ce qu'on vit au sein des patronages, je crois que c'est aussi l'écoute. C'est-à-dire qu'au sein du patronage, nous sommes là pour écouter les enfants. Et je crois que c'est déjà une première marche énorme pour ensuite continuer à les accompagner dans leur chemin spirituel. C'est d'abord être à l'écoute de ce qu'ils veulent nous partager. Et ça, au sein du patronage, c'est ce temps gratuit autour d'un jeu, autour d'un goûter, d'un repas partagé, qui rend disponible cette écoute et ensuite ce partage et ce chemin vers Jésus.
Père Jean-Marie Petitclerc, l'enjeu, c'est pas forcément de transmettre un discours, mais c'est plutôt d'écouter les questions de...
Oui, comment dire, il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'essayer de leur donner le goût d'entrer en relation avec Dieu. Donc, je crois que ce qu'ils expérimentent, c'est effectivement la vraie relation. Hein. Je leur dis, il faut distinguer la connexion de la communication. Ils ont 500 amis sur Facebook, c'est pas des amis, c'est 500 contacts. Bon. Et effectivement, le jeu, l'activité, va permettre de goûter le bonheur de cette relation. Bon. Alors, après, je crois que effectivement, il s'agit de qu'ils s'apprennent à s'aimer comme le Christ les a aimés. On peut avancer, mais l'essentiel, c'est toujours la relation. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de parler de Dieu que de parler à Dieu. C'est plus facile de faire un discours théologique que de prier. C'est beaucoup plus facile de parler de l'autre que de parler à l'autre. Parler de l'autre, les critiquer, bon, d'essayer d'avoir déjà cette ambiance de vérité des relations entre eux, où on arrive à se parler, on se parlait vraiment. Et c'est ensuite qu'on va... pour nous, la pédagogie à spiritualité de Don Bosco, la plus belle illustration, c'est ce verset, celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. C'est-à-dire que cette invitation qui est faite à l'éducateur de nouer une relation avec l'enfant dans le même registre que sa relation à Christ. C'est-à-dire une relation fondée sur le croire, espérer, aimer. Et il s'agit de vivre la relation éducative dans un « je crois en toi » à la manière dont Christ croit en toi, à la manière dont j'expérimente que Christ croit en moi. C'est-à-dire, j'espère avec toi à la manière dont Christ espère avec toi, à la manière dont j'expérimente que Christ espère avec moi. Il ne s'agit pas de faire un discours. Il s'agit effectivement de transmettre ces valeurs de foi, d'espérance et d'amour qui sont effectivement au cœur de la démarche chrétienne. Xavier Thévenot, un grand théologien moraliste salésien, disait que pour éducateur chrétien, la relation éducative a une dimension sacramentelle. Et c'est essayer avant de faire percevoir, pas sacrement au sens des sept sacrements de l'Église, mais est signe, pour éducateur chrétien, la relation à l'enfant est signe de sa relation à Christ. Et quand je disais répondre aux questions, c'est vrai, c'est là où on sera amené à un moment à témoigner de notre propre relation au Christ. Je discutais avec des chefs scouts à un moment qui se posaient des questions sur l'animation du temps de prière, parce que l'essentiel, c'est pas les techniques d'animation du temps de prière, c'est que vous avez joué avec ces gamins, vous avez cette image de grand frère, c'est qu'il vous voit prier. C'est ça qui donnera goût à la prière. C'est pas de se dire, voilà, j'anime parce qu'ils sont là, on sort les fiches, le chant, le truc, et puis j'anime. L'essentiel, c'est... Et c'est ça qui peut leur donner le goût de prier. C'est-à-dire, tiens, cet adulte, pour lui, c'est important. Et il va se poser une question. Et qu'est-ce qu'il joue? Il interrogera. Je crois que au patronage, on va vivre ces relations vraies. Et puis après, effectivement, en témoignant soi-même de sa propre foi, ça interpellera.
Dans la vie d'un chrétien, il y a la vie, la relation personnelle à Dieu, et comment je la vis en communauté, avec cette question de l'Église derrière. Comment on fait pour donner le goût, avant on parlait de l'amour de l'Église, voilà, donner le goût de l'Église, de vivre cette foi en communauté à ces jeunes, si on regarde les catéchumènes adultes qui sont de plus en plus nombreux, et il y a aussi ce chiffre de beaucoup de ces catéchumènes ont du mal à trouver leur place dans l'Église. Voilà, peut-être pour un dernier tour de table, mais Jean-Marie Petitclerc.
C'est en vivant effectivement la fraternité, je crois que ça doit interpeller effectivement nos communautés paroissiales. Je prends un exemple. La messe, au départ, le centre, c'est le partage d'un repas. Partage de repas eucharistique. Bon, c'est vrai qu'au début, quand Jésus célébrait la messe, il réunissait ses amis autour d'une table. Bon. Après, il y a eu énormément de monde. Bon, non. Donc on pouvait plus se réunir autour d'une table. Donc on a mis les gens les uns derrière les autres. Puis après, ben, il fallait quand même qu'on voie. Bon. Donc on a surélevé l'hôtel. On a surélevé l'hôtel. Bon. Aujourd'hui, il y a les assemblées, il n'y a plus de monde. Bon. Retrouvons la simplicité. Si on veut refaire découvrir la messe, retrouvons la simplicité des premiers temps. Moi, je suis un traditionaliste au sens de vraiment les repas eucharistiques des premiers temps et de la première église. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est-à-dire qu'on a pris un mode de célébrer qui était indispensable quand effectivement l'église était pleine avec 500 personnes effectivement. Et alors maintenant on va avoir 3 personnes là, 2 ici, 3 là, 2 ici, 3. Je comprends que le catéchumène, quand on lui dit la messe c'est le partage du repas eucharistique, dès qu'il il est rentré, il voit pas bien le lien, quoi. Hein, il voit pas bien le lien. Puis il y a tout un langage. Je veux dire que Jésus a choisi quand même un geste basique. Un geste basique, je partage un morceau de pain, je fais circuler un verre de vin. C'est-à-dire, c'est, tout le monde peut comprendre. Bon. Puis après, au fil des siècles, on met tout un langage autour. L'oblation, machin, ça. Je veux dire que ça, au niveau des jeunes, ça passe complètement au-dessus de leur tête. Enfin, je veux dire. Donc, c'est comment, enfin, je crois, cette interpellation, c'est dire comment effectivement nos communautés qui sont plus avec l'ampleur de ce qu'étaient les communautés paroissiales il y a une cinquantaine d'années, comment ils vont réinventer leur manière de célébrer de manière à que ça puisse continuer d'être parlant.
Corentine, sur cette question de donner le goût à nos jeunes de la messe et plus largement de l'Église, de la vie communautaire en chrétien.
Moi, j'ai envie de dire par la joie. C'est vrai que le précurseur des patronages, Saint Philippe Néri, c'est le saint de la joie, c'est un saint qui est un homme qui aimait rire, qui aimait faire des blagues, qui aimait jouer et je crois que par cette joie partagée, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer et notamment cet amour de l'Église si la joie est partagée au sein de nos paroisses.
Anne Clerval, on va finir par vous, voilà sur cette comment donner le goût de l'Église à ces jeunes.
Moi ça m'a tout de suite évoqué votre question, un moment très fort qu'on a vécu au pèlerinage des jeunes pendant la veillée de prière où on a fait un temps par 3-4 jeunes, un temps de prière des frères où on a amené les jeunes à prier les uns pour les autres et à prendre soin d'eux par la prière. Et je trouve que ça a été un moment assez fort où les jeunes sont ressortis avec un grand sourire et une joie et une volonté vraiment de pouvoir continuer à porter la prière de chacun. Et je trouve que par ça c'est un beau moyen de vivre ensemble l'Église, la foi, et de susciter aussi chez les jeunes ce désir de porter un temps de prière et de continuer dans cette direction aussi.
Voilà, on va s'arrêter sur ce beau témoignage. Un grand merci à tous les quatre. Anne Clerval de la pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux et Lisieux. Merci Henri et Corentine Huvé de Esprit de Patronage. Voilà le tour de France des patronages. Si on veut en savoir un peu plus, on tape sur Internet, on trouve.
Il y a une page spéciale pour notre tour de France sur le site d'Esprit de Patronage. Et si des paroisses sont motivées, sont intéressées pour nous faire venir, ils peuvent envoyer un mail à tourdefrance@espritdepatronage.org.
Il leur reste jusqu'à quand? Parce que vous nous avez dit que vous étiez parti pour un an.
Pour un an, donc jusqu'en avril prochain.
Voilà, jusqu'en avril prochain. Père Jean-Marie Petitclerc, merci beaucoup de vous être arrêté sur RCF en Normandie.
Voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver la Normandie.
Et de nous avoir donné vraiment ce beau portrait de cette jeunesse qui encore recherche Dieu. Et puis de votre engagement, tous, pour répondre à leurs questions. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci.